merci d'être là. On va démarrer et commencer à parler, ne serait-ce que pour faire venir les autres auditeurs potentiels. J'en suis presque à me dire qu'il est inutile de présenter Gérard Klein. Gérard Klein,
en effet, je ne suis plus présentable.
Il n'est plus présentable depuis longtemps. D'une part, vous le connaissez tous depuis longtemps. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des amateurs de science-fiction. Et Gérard Klein, c'est presque la science-fiction française à lui tout seul. Et d'autre part, il a été déjà dans de nombreuses tables rondes et introduit souvent. Je suis très impressionné par les records qu'il a posés. Je l'ai vu, je crois, tenir 5 tables rondes d'affilée en 6 heures hier ou avant-hier. Je vais quand même risque de faire souffrir sa modestie, vous retracer un tout petit peu son parcours. Gérard a toujours été là, en fait, pour autant que c'est l'un des attributs de Gérard Klein, c'est probablement l'éternité en matière de science-fiction. On parlait il y a quelques instants de nos âges respectifs. Moi, je suis plus très très loin de 50 ans, d'avoir 50 ans. Et quand j'étais adolescent, l'une des voies d'accès vers la science-fiction, pour moi, c'était déjà Gérard Klein. La grande anthologie de la science-fiction, les préfaces. Je me souviens, comme jeune adolescent, j'avais lu quelques ouvrages de science-fiction, évidemment. Mais je souffrais beaucoup de devoir étudier à l'école des ouvrages réputés classiques, Le Ravage de Barjavel, le 1984 d'Orwell, avec des professeurs qui m'ennuyaient beaucoup en tenant absolument à m'expliquer à quel point c'était important pour les fantasmes de la génération précédente, que Orwell, c'était 1984, c'était un discours contre le stalinisme. Bah, pour moi, le stalinisme dans les années 60, c'était pas quelque chose de passionnant. Et c'était une affaire réglée depuis très longtemps. Et en fait, ma véritable première rencontre avec la science-fiction, ça a été la grande anthologie de la science-fiction, et en particulier les préfaces de Gérard Klein, qui non seulement me prouvaient par l'exemple qu'il pouvait exister des tas de petits bijoux de la science-fiction, des textes qui pouvaient être très drôles, des textes qui pouvaient être intelligents, des textes qui pouvaient... toutes sortes de textes avec tous les attributs possibles de la science-fiction que vous connaissez bien. Mais surtout que ces textes étaient eux aussi intemporels, qu'on pouvait prendre un texte de l'âge d'or et s'en servir pour parler non seulement de l'époque où il avait été écrit, mais d'aujourd'hui et aussi, pourquoi pas, de demain. Et pour moi, Gérard Klein, c'est très, très largement cette capacité à jouer avec le temps, à relier dans le vocabulaire de Krasinski, pour Krasinski parlerait volontiers de liens temporels. L'une des anthologies qu'il a publiées au livre de poche s'appelait les passeurs de millénaires. Ouais. Mais pour moi, Gérard Klein, c'est avant tout effectivement un passeur, peut-être pas de millénaires, mais de quelque part dans les années, au début des années 50, vers le début du 21e siècle, et l'histoire est loin d'être finie.
Bon. J'ai quand même réussi à passer des années 1900 aux années 2000, donc j'ai bien passé un millénaire.
Peut-être quand même un petit point rapide pour ceux qui ne te connaîtraient pas complètement ou qui ne te connaîtraient que récemment. Tu es un grand garçon maintenant, tu es né à la fin des années 30, en 1937,
oui,
je crois.
1937, oui.
Avant d'être un grand garçon, tu as été un jeune homme relativement précoce, parce que je crois que tu as commencé à écrire très très jeune. Tes tout premiers textes, pas forcément publiés, mais envoyés à des revues professionnelles, ça devait être fiction à l'époque, doivent remonter à tes 16 ou 17 ans, et
oui.
Tes premiers textes publiés à 18 ou 19, bon.
Le premier texte publié, j'ai dû l'envoyer quand j'avais 17 ans, est paru quand j'en avais 18, dans Galaxy. Je crois bien que c'était en octobre 1955. Je ne suis pas particulièrement fier de ce texte. Ou plus exactement, le texte, il n'est pas exécrable en soi, comme tout ce que j'écris, c'est remarquable. Mais il y a une chose qui m'ennuie un peu, et qui ennuyait surtout Eric et puis Estelle Blanquet, c'est que mes personnages se trouvaient sur la Lune et ils assistaient à un lever de terre. Alors on me l'a fait remarquer et je me suis incliné. J'ai pas tellement pu changer le texte, donc j'ai préféré le retirer de la liste, sinon de mes œuvres complètes, du moins de mes œuvres autorisées.
Ah, ça me permet en fait de te poser une première question qui est en quelque sorte celle de l'inné et de l'acquis. Tu viens de nous dire que bon, Tu es de toute évidence aujourd'hui l'un des écrivains français dont l'œuvre est la plus prestigieuse. Tu es l'auteur d'un grand nombre de classiques de la science-fiction. Si on va dans une librairie américaine, le seul auteur français qu'on trouve, c'est pratiquement toujours soit Gérard Klein, soit Gilles Dargir, mais la nuance est étroite. Donc tu as un métier consommé et tu sais aujourd'hui écrire dans tous les genres comme tu l'as amplement prouvé. Tu viens de nous dire que c'était pas vrai quand tu avais 17 ans. Et quelle est pour toi la part de l'apprentissage, quelle est la part du talent propre et des capacités littéraires du jeune Gérard Klein adolescent et de ce que tu as appris au fil des années?
Enfin, ça, je dois dire que je suis vraiment mal placé pour répondre à ce genre de questions parce que je me rends vraiment pas compte. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, énormément lu, pas seulement de la science-fiction. Jusqu'à 9, 10 ans, j'étais un grand lecteur de romans policiers, mais je lisais aussi beaucoup de littérature. Et puis, je lisais d'ailleurs déjà de la science-fiction, ce qu'on appelle la vieille science-fiction française, entre autres. Tout Wells, évidemment, tout Verne, tout ce que je trouvais de Rony, enfin, et d'autres auteurs. Évidemment, j'avais lu les Barjavel. Mais quand, au début des années 50, donc j'avais à ce moment-là 13 ans, sont apparues les collections Présence du futur et Rayon fantastique. Et la revue Fiction, ça m'a, entre 1950 et 1953, ça m'a évidemment confirmé dans ma vocation. Je crois que j'étais quelqu'un qui écrivait peut-être naïvement, mais plutôt bien, enfin, très jeune. J'ai commencé aussi très vite à publier des articles critiques dans Fiction. Ma première nouvelle donc est parue dans Galaxy en 55. Les gens de fiction, c'est-à-dire Alain Doremus, avaient sous le coude déjà un certain nombre de textes et ça les a un peu bousculés. Donc j'ai publié dans Fiction ma première nouvelle et très vite des articles à partir de 1956. Je crois que j'écrivais à peu près convenablement. Alors, un de mes projets actuels, qui est vraiment l'Arlésienne, du point de vue de mon éditeur, c'est de reprendre mes articles anciens, enfin un choix quand même, en particulier les articles que j'ai publiés dans Fiction, puis des préfaces que j'ai publiées peu après, dans un recueil qui s'appellera Futur intérieur. Et ça fait au moins 3 ans que j'ai le feu vert de Robert Laffont, enfin des éditions Robert Laffont. Et c'est moi je fais pas le boulot. D'abord parce que j'ai horreur de me relire. Alors ça gêne un peu. Je n'ai pas l'intention de modifier ces textes, je crois qu'il faut les conserver dans leur jus. Enfin, on peut quand même réparer les erreurs matérielles, corriger les coquilles, faire quelques annotations, enfin, etc. Mais je pense que c'est pas que ça a un intérêt monumental. Je pense que rééditer ces articles donc des années 50 et des années 60, du début des années 60, qui sont parus en fiction à l'époque, qui sont à peu près inaccessibles pour la plupart des mortels, ça présente un intérêt historique. C'est essayer, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la science-fiction en France, ça permet de voir comment on parlait des livres, comment on se représentait les choses à l'époque. Alors je ne désespère pas l'année prochaine de sortir ce livre, qui serait le début d'une série d'au moins 12, parce que j'ai publié à peu près 500 textes, je ne dis pas que tous sont en réalité, dont certainement plus d'une centaine de préfaces, qui comme tous ceux présents ici qui les ont lus savent à quel point ils sont admirables.
Et quel serait ton conseil aux jeunes aspirants auteurs dans la salle? Est-ce qu'il faut peaufiner un premier texte jusqu'à être sûr, comme tu disais, d'écrire convenablement et d'avoir un texte de niveau quasi professionnel avant de l'envoyer à une revue? Ou est-ce qu'il faut, dès que possible, se frotter à la publication, éventuellement dans les fanzines ou dans les revues existantes comme Bifrost ou Galaxy?
Ouais, là encore, c'est difficile de répondre à cette question. Bon, si on s'adresse à un éditeur professionnel ayant pignon sur rue, il faut lui envoyer quelque chose d'aussi abouti que possible. Hein. Il m'est passé entre les mains des centaines de manuscrits comme éditeur. Maintenant, c'est beaucoup moins souvent le cas. Et passé entre les mains, en principe, déjà après un filtre. Mais, bon, on voit arriver des choses complètement inabouties. Alors, qu'est-ce que fait un éditeur ? D'abord, tout manuscrit envoyé à une maison d'édition sérieuse, et la plupart le sont, est examiné. Mais il est examiné de façon un petit peu rapide. Hein. C'est, bon. Alors si, au bout de 4 pages, on a relevé 42 fautes de syntaxe lourdes, on va pas beaucoup plus loin. Si ça n'a aucun intérêt, que ça ressemble vaguement à un des plus mauvais Edmond Hamilton de ses débuts, on va pas non plus beaucoup plus loin. Bon, les éditeurs, en gros, ils lisent, et leurs lecteurs, ils lisent une dizaine de pages. Si ça accroche à peu près, ils vont jusqu'à 20 ou 40 pages. Ils lisent quelques pages au milieu. Alors, s'ils sont accrochés vraiment, ils vont jusqu'au bout, hein, dans la foulée. Bon, sinon, s'ils ont un léger doute, ils vont lire quelques pages au milieu, et puis ils vont lire les 10 dernières pages. Donc, si c'est bâclé, ça a peu de chances de passer ce filtre, enfin, d'être retenu. Si c'est à peu près convenable et qu'il y a une idée intéressante, qu'il y a quelque chose, comme je l'ai fait très très souvent, soit on retient le manuscrit et éventuellement le publie, mais ça c'est quand même relativement rare. Il y a le cas célèbre de Michel Jury avec Le Temps Incertain, où on l'a publié sans en changer une virgule. Mais sinon, je donne volontiers des conseils à l'auteur, mais il faut déjà qu'il ait retenu mon attention. Hein. C'est pas les manuscrits qui arrivent en disant « Dites-moi ce que vous en pensez, comment il faut le corriger, etc. » Ça, on peut pas faire. Bon, c'est un énorme travail. Mais on donne des conseils à l'auteur, et dans un certain nombre de cas, on le réoriente vers un autre éditeur ou vers une autre collection. Si je me souviens bien, ça m'est arrivé pour Dantec, qui d'ailleurs s'en est souvenu et m'en a remercié. Je ne sais pas si ça m'est pas arrivé pour Jeune Fort. Enfin, des gens qui ont fait des carrières, il n'est pas tout à fait, ou en tout cas immédiatement, leur place dans la collection Ailleurs et Demain, mais je me suis efforcé de les réorienter ailleurs, et généralement, ça s'est pas mal passé. Alors, le deuxième aspect de la question, c'est publier dans les fanzines, dans les... Alors, je dois dire que je crois que c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas comme ça que j'ai démarré. J'ai plutôt publié après dans les fanzines parce que j'étais sollicité. pas très très souvent. Enfin, si, j'ai pas mal publié dans le fanzine de Pierre Versin ailleurs parce que c'était un ami. Pourquoi pas? C'est une bonne façon de débuter. Faut pas se faire trop d'illusions sur l'impact que ça a. Mais surtout, il faut pas croire qu'à partir du moment où on a un truc publié dans un fanzine de Limoges, enfin je prends Limoges en pensant à ou Clermont-Ferrand ou en pensant à Fontana ou à des gens aussi bien que ça, faut pas croire que ça y est, on est arrivé, que l'étape suivante c'est le Goncourt avant le Nobel. C'est bien de se voir imprimer, c'est agréable, c'est satisfaisant, mais ça n'est qu'un tout petit départ. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à travailler, et on n'a jamais fini de travailler.
On avait quitté le tout jeune Gérard Klein, presque adolescent encore, et ses premières publications. Il n'y a pas à attendre très très loin pour arriver à un auteur quasiment accompli. Je crois que tu es au début de la vingtaine quand tu publies le cycle d'Argyre, qui est probablement la seule œuvre française importante qui relève de l'âge d'or. L'âge d'or de la science-fiction qui va en gros de la fin des années 30 aux États-Unis jusqu'à la fin des années 50, si on compte un peu large, qui est associé à des noms comme Heinlein, Asimov, tous les grands noms américains, qui a eu en fait relativement peu d'écho en France, une science-fiction très attachée à la technologie, relativement optimiste en général. Et Gilles d'Argyre est l'un des rares auteurs français qui est donné dans cette veine, mais en allant relativement loin. Gilles d'Argire, la trilogie Contes chirurgiens d'une planète, qui est probablement l'une des toutes premières œuvres à parler véritablement de terraformation, qui était un thème très rare à l'époque. Les Voiliers du Soleil, je crois bien, est le premier texte de fiction dans lequel intervient la notion de voile solaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les innovations que tu peux introduire dans la science-fiction à ce moment-là. Ma question est plus de savoir comment il se fait que tu es le seul, que ça ait aussi peu pris en France d'une part. Pourquoi cette science-fiction américaine, qui a eu un succès considérable éditorial aussi bien aux États-Unis qu'en France, a eu relativement peu d'écho chez les auteurs français. Et d'autre part, pourquoi Gilles d'Argire a cessé d'écrire très rapidement, en fait.
Mais il n'a pas cessé de publier aussi rapidement. Alors j'ai dû écrire, avant les Gilles d'Argire, j'avais publié, que j'avais écrit avant, un recueil de nouvelles, qui était un exploit qui serait impossible de renouveler aujourd'hui, Les Perles du Temps, et puis Le Gambit des Étoiles, un roman, qui sont des romans que j'ai dû écrire avant d'avoir 20, enfin les nouvelles comme le roman, avant d'avoir 20 ans, mais qui ont attendu, ils sont parus en 1958 tous les deux, il y a un petit temps dans la marmite des éditeurs, et c'est tout à fait normal. Alors, et d'Argire, j'ai dû commencer à écrire ça, je ne sais plus exactement, enfin, dans le roman, à la fin des années 50, quand j'avais 20, 21 ans, j'avais rencontré André Ruellan à un cocktail des éditions de Noël, où j'avais donc publié dans Présence du Futur Les Perles du Temps. Je me souviens très bien de ce cocktail. Alors on est devenus extrêmement copains, on n'a pratiquement pas dessoulé pendant 3 jours. Et André, alias Kurt Steiner, il dit « Ouais, pourquoi t'écrirais pas pour Le Fleuve Noir ?» Parce que je rêvais de devenir un écrivain professionnel, tout en ayant très peu d'illusions sur cette possibilité. Et donc j'ai commencé à écrire des romans pour Le Fleuve Noir. Le premier que j'aurais donné s'appelait « Chirurgien d'une planète ». Qu'ils ont pris donc sous le pseudonyme de Gilles d'Argire. Argire, d'une part, étant, comme chacun sait, une plaine de Mars, si je me souviens bien, du côté du pôle sud, sauf si je me trompe. Et puis, d'autre part, Arguros signifiant en grec d'argent, ça indiquait clairement la fonction nourricière du projet. Enfin, bon, j'avais très envie de faire ce genre de choses, donc j'écris ce bouquin qui faisait dans les 400 000 signes. Et le fleuve souhaitait avoir des manuscrits très, très calibrés d'environ 300 000 signes. Et, comment il s'appelait, le directeur Bessière, Richard, qui était directeur littéraire du Fleuve Noir, le patron étant Armand de Caro, m'a demandé, il m'a dit oui, on le prend, c'est très bien. Il m'a demandé de le raccourcir. Alors c'est ce que j'ai fait de mon mieux. Pour bien, dans cette époque extraordinairement lointaine, c'était juste après la chute d'Alésia, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc quand on raccourcissait un texte, bon, on pouvait raturer, mais il fallait éventuellement tout retaper aussi, etc. Enfin, j'ai dû, sur les 400 000 signes, j'ai dû en retirer 50 000, puis j'ai dit à Richard, bonsoir Richard, moi j'y arrive pas. Et lui l'a fait. Et des années après, quand j'ai repris ce texte, je sais plus où, au livre de... j'ai lu d'abord, à la demande de Jacques Sadoul, je me suis aperçu qu'en comparant la pelure du manuscrit que j'avais conservé, le texte de François Richard, dont je garde donc un excellent souvenir, avait fait un très bon boulot, il avait très très bien compris, et en gros, quand Sadoul m'a demandé de reprendre ce bouquin, il me disait, bon, je vais réintroduire tout ce qui a été retiré, parce que c'est une honte et un scandale de toucher une prose aussi admirable, et puis le diagnostic porté, je dis non, vaut mieux laisser les choses, less is more. Il vaut mieux laisser les choses en l'état. Enfin, il y a vraiment fait bon. Donc ça a été le premier. Alors, moi, en même temps, je faisais des études à Sciences Po, études d'économie, études de psychologie, ça, j'avais quand même pas un temps infini, donc j'ai écrit plusieurs fleuves noirs. Mais le fleuve noir voulait des écrivains parfaitement réguliers, ce que Kurt Steiner, alias André Ruellan, a été. Enfin, ils voulaient publier un texte que quand ils avaient au minimum le suivant. Alors, ils m'ont publié assez régulièrement. D'ailleurs, j'en ai écrit au moins un ou deux pendant que je faisais la guerre d'Algérie, ce qui me permettait de mettre un peu de beurre dans les épinards. Je ne crois pas qu'on en avait beaucoup, mais enfin, dans ce qu'on avait à l'époque. Et puis, j'ai écrit, je suis peut-être le meilleur de toute la série, Le Sceptre du Hasard. Et Le Sceptre du Hasard, qu'ils ont dû recevoir... Ben si, je me souviens très bien, je l'ai écrit en rentrant d'Algérie à la fin de l'année 1962, en 20 ou 22 jours, je tenais des fiches à l'époque. Enfin, j'y avais un peu réfléchi avant, évidemment. J'aurais donné, donc ils l'ont eu au tout début de l'année 63. Puis ils l'ont jamais publié. Alors, c'était pas mon premier souci, j'en avais d'autres... Enfin, finalement, en 1967, probablement, j'ai dit, bon, écoutez, si vous le publiez pas, moi, je le reprends, puis je le place ailleurs, je le remanie et je le revends ailleurs. Alors là, ils l'ont publié. Alors, il est paru en juin 1968, bien que vous soyez trop jeune pour vous souvenir de ces époques historiques, c'était pas vraiment le meilleur moment. Enfin, bon, ça a bien marché, il a été réédité ailleurs plusieurs fois, etc. Mais enfin, ça a mis un terme à ma collaboration avec le Fleuve Noir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été très content de publier ces 5 livres dans la collection Anticipation du Fleuve Noir. Et puis, le monde est vaste.
Tu as évoqué ton passage par Sciences Po. Donc là, on entre dans un autre volet entièrement de ton activité. Donc tu es passé par Sciences Po, tu as fait ensuite des études de psychologie, ensuite ou en parallèle d'ailleurs. Une double formation, et assez curieusement, après cette formation, on te retrouve dans une troisième discipline encore, qui est l'économie.
Oui, ça c'était dans le droit fil. C'était dans le droit fil de mes études à Sciences Po, enfin, où j'étais en section économique et financière. Je suis donc rentré à mon retour de la guerre d'Algérie après d'autres activités. Alors, il y a eu un temps où, sous la pression de mon ami Sternberg, j'ai travaillé pour l'éditeur Claude Chou, un guide de la France mystérieuse, qu'on doit encore trouver, enfin, qui n'est pas un monument du guide touristique ni de la littérature, mais enfin, qui n'est pas inintéressant. Et surtout, j'ai réorganisé le travail de la petite équipe qui s'en occupait, si bien que Claude Chou ne voulait pas me laisser partir. J'avais posé ma candidature dans une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la CEDES, la Société pour le développement économique et social, où d'ailleurs, et c'est comme ça que j'avais connu cette société, travaillait Jacques Goimard. Enfin, il était rentré quelques mois avant, et il m'avait dit, tu devrais aller là, parce que avec une capacité comme les tiennes, tu seras tranquille la moitié du temps, et tu auras le temps d'écrire. Ça ne s'est pas révélé tout à fait vrai, mais je ne regrette pas du tout ce passage dans la société où j'ai appris énormément de choses et rencontré des gens tout à fait extraordinaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais plutôt un généraliste en économie. Le patron de la CEDES, qui est devenu un ami, René Mercier, était un matheux, un normal sup maths, et spécialiste des mathématiques appliquées à l'économie. Donc pour lui, j'étais un peu un extraterrestre, un littéraire, etc. Mais j'avais écrit pour Sciences Po un diplôme, pas vraiment équivalent à un doctorat, mais enfin disons l'équivalent à un diplôme de maîtrise, qui s'appelait l'utopie moderne, qui était consacré pour l'essentiel à la science-fiction. J'appelais ça utopie parce que c'était plus facile de le faire passer. Et j'avais eu une bonne note à Sciences Po pour ça, qui a un peu amélioré mon classement. Et Mercier a lu ce texte. C'était un bosseur. Il a lu ce texte et puis il m'a engagé. Il m'a dit, enfin, j'aurai un économiste qui est capable d'écrire. C'était vrai, parce que j'ai écrit et réécrit pas mal de rapports pour les uns et pour les autres. Alors, comme certains d'entre vous le savent, j'ai fait de nombreuses études pendant les 15-20 ans que j'ai passé à la Caisse des dépôts. Mais mon titre de gloire le plus considérable, c'est la création du plan d'épargne logement. Vous êtes prié de verser pour chacun de ceux qui en ont bénéficié une obole dans le tronc qui sera disposé à la sortie.
On n'est pas très loin d'ailleurs de l'idée de lien temporel que j'évoquais tout à l'heure. Le plan d'épargne logement, c'est aussi une incitation à envisager l'avenir et à se doter des moyens de réaliser ses projets à moyen ou long terme.
Oui, alors j'ai, après avoir fait des tas de choses, y compris représenter, je ne sais plus très bien qui, au Caire, en 1972, c'est une autre expérience qui m'a beaucoup appris. Enfin, on a pas parlé de l'Algérie, qui est une expérience qui m'a beaucoup appris. Mais donc, j'ai été envoyé au Caire l'été 72. Alors, pourquoi 72 ? Ben, c'est un an avant la guerre du Kippour. Et l'idée était de tâter un peu le terrain, de savoir ce qui allait se passer ou pas se passer, et ben, si on le pouvait, éviter le pire, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Alors après ça, j'ai pris une année sabbatique, juste avant d'ailleurs, en 71, dans l'idée que j'allais me mettre à écrire et peut-être parvenir à vivre de ma plume. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Enfin, en tout cas, pas de façon de sens. J'étais très mal payé pour la crise de beau correctement, sans plus. Mais enfin, j'étais très mal payé. J'avais vraiment pas fait fortune dans tous ces métiers. Et donc, en 71 ou quelque chose comme ça, j'ai été avec René Mercier, donc je l'ai déjà cité, et puis Georges Rottier, qui avait été le patron du CREDOC, le groupe de prospective de la Caisse des dépôts et consignations, qui a fonctionné entre 1971 et 1987 à peu près, et où nous avons fait pas mal de travaux, en particulier un travail sur l'avenir du système de retraite. Personne n'en a tenu absolument aucun compte. Mais c'est dommage parce que, disons qu'on avait prévu ce qui allait se passer jusqu'en 2005, on a fait la prospective de ce qui pouvait se passer jusqu'en 2005 à peu près. Et je dois dire qu'on avait carrément bien vu les choses. Personne n'en a tenu compte, si bien que les problèmes sont venus après. Il suffit pas de tourner le dos à un problème pour qu'il disparaisse, contrairement à la célèbre formule d'un maire de New York. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à ce moment-là. D'autant qu'en 1969, Robert Laffont, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Jean-Pierre Mocky, le cinéaste avec qui j'avais fait un film, une adaptation d'un bouquin de Jean Rey, La cité de l'invisible peur. Donc Robert Laffont me reçoit et accepte de créer une collection de science-fiction, ce que je souhaitais faire. Je lui dis, bon, c'est tout à fait merveilleux. Je suis extrêmement content que vous ayez créé cette collection. Maintenant, il reste à trouver quelqu'un qui va s'en occuper, la diriger. Et la fois, parce que moi j'ai pas le temps. Bon, et à la fois on me dit oui, non mais il y a un léger détail, je la fais si vous la prenez en main. Alors je me suis trouvé avec ce truc en plus. J'ai continué à faire des études économiques. La collection, garder un pied d'animer le groupe de prospective en question. Enfin, Georges Rottier et d'autres s'en occupaient très bien, mais enfin, bon. Bref, tout ça était assez actif. Dormir à 4 heures, c'était les bons jours.
Donc là, on est arrivé au début des années 70 où tu entames vraiment sérieusement les deux grandes carrières pour lesquelles tu es le plus connu, c'est-à-dire celle de prospectiviste d'une part, celle d'éditeur d'autre part. J'aimerais rester un instant sur la prospective. Je sais que tu détestes qu'on parle de futurologie. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la différence entre la prospective et la futurologie ?
C'est-à-dire, futurologie, c'est un terme plutôt américain, mais enfin, consiste à dire, on va vous dire ce qui va se passer. Hein. C'est Herman Kahn, c'est plus subtil que ça chez Kahn, mais enfin c'est Herman Kahn et le Youngson Institute, enfin, et, bon, c'est vraiment, d'un point de vue linguistique, le terme de futurologie est une monstruosité, puisqu'il mélange une racine latine et une terminaison grecque. Non, la prospective, on va absolument pas vous prophétiser ce qui va se passer. On va essayer d'explorer les avenirs, la pluralité des avenirs, de façon à donner des conseils les moins maladroits possibles aux gens, aux entités économiques ou sociales, d'ailleurs, que ça intéresse. Alors, la prospective, elle s'adresse, c'est très important, toujours d'abord à un sujet. C'est un sujet collectif, c'est une entreprise, par exemple. Je veux dire, on m'a proposé ou demandé plusieurs fois de faire prospective d'un truc abstrait. Non, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir définir, cerner en quelque sorte un sujet, regarder dans quel univers particulier il se déploie. Enfin, et à partir de là, on peut, avec son aide essentiellement, essayer d'explorer les difficultés ou les opportunités qu'il va rencontrer. Là, je suis par exemple en train d'essayer de monter avec Futurible un petit groupe de réflexion sur l'avenir à 15-20 ans. Hein, faut voir loin dans la prospective du livre numérique. Alors, je vais évidemment pas dire ce qui va se passer parce que j'en sais fichtrement rien. Mais on va essayer de voir ce qui peut se passer, définir plusieurs scénarios, ça marche pas, quelle forme ça peut prendre, etc. Bon, je vais essayer de réunir un petit nombre de gens très compétents. D'ailleurs, j'en ai rencontré un ici qui est particulièrement compétent. Et on va réfléchir à ce qui peut arriver. Donc c'est un éclairage qui est donné. C'est en aucune manière une prophétie, il n'y a aucune certitude, il n'y a rien. Mais c'est un éclairage et c'est un éclairage qui doit être dynamique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être régulièrement réexaminé en fonction du changement de l'état du monde. Et cette activité prospective que je n'exerce plus beaucoup, enfin j'ai essayé de le faire sur le livre numérique, est tout quelque chose de tout à fait passionnant, mais qui est très difficile à faire admettre par ses clients éventuels, qui sont soit des entreprises, forcément des grosses entreprises privées, soit des administrations, parce que forcément on introduit l'incertitude. Chaque fois qu'on arrive au bout d'un travail prospectif, on propose, en nombre limité, parce que sinon c'est inintelligible, des scénarios. Bon, 4, 5, 6, on peut arriver à 8, 10 scénarios, mais enfin bon, c'est de se limiter. Et la question immanquable qui arrive, c'est bon, d'accord, vous avez 8 scénarios, lequel est le bon? c'est exactement toute la pédagogie de la prospective, c'est la pluralité des avenirs. Il n'y en a pas un qui est le bon, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être essayer de prendre un cap en fonction des choses qu'on a essayé d'éclairer avec vous et qu'on pourra continuer à examiner avec vous. La prévision est un art difficile, surtout quand il porte sur l'avenir.
Je ne sais pas si ça vaut la peine de s'étendre beaucoup sur ton activité d'éditeur, dans la mesure où il suffit de faire trois pas dans la librairie à côté pour trouver des livres que tu as édités. Tu parlais à l'instant de la collection Ailleurs et Demain, créée il y a presque 40 ans maintenant, qui est évidemment... Il y a plus de 40
69.
Ans. 69. Eh oui, je sais plus compter. qui est la collection de référence évidente où tous les grands textes de science-fiction ont été publiés. Tu es, je crois, l'initiateur aussi du livre de poche science-fiction, qui est aussi l'une des collections majeures sur laquelle nous avons tous lu un nombre considérable de textes. Je suis tenté de dire que dans ce domaine-là, ce qui me surprend un petit peu, c'est que alors même que tu es, on voit bien que tu es plein de projets, que tu as fait énormément de choses, que tu es presque l'archétype de la science-fiction dans ce cas-là, presque de traditionnel, Ton discours est relativement pessimiste. Tu as publié un essai qui s'appelait « Malaise dans la science-fiction ». Je t'ai entendu une fois ou l'autre dire que la science-fiction, sinon était morte, du moins risquait de l'être bientôt. Quel est ton regard sur la science-fiction et sur l'édition de science-fiction en particulier?
Oui, alors, il faut bien distinguer les deux choses. L'essai « Malaise dans la science-fiction américaine » tente un diagnostic, une approche de sociologie littéraire sur la science-fiction américaine des années 50, 1950 à 1970 à peu près, et montre que c'est pas simple, et qu'un des rares auteurs, enfin des auteurs de qualité, de grande qualité, raisonnablement optimiste, c'est Ursula Le Guin. En revanche, alors ça n'a strictement rien à voir avec ce malaise, ce que je constate statistiquement, et puis aussi d'une façon plus qualitative, depuis en gros une quinzaine d'années, depuis le milieu des années 1990, ce que je constate, comme la plupart d'ailleurs de mes collègues éditeurs de science-fiction, c'est un rétrécissement progressif du public, peau de chagrin, qui commence à atteindre le stade du dernier souhait, si vous vous souvenez de l'histoire. Alors, pourquoi ? Alors, d'abord, il y a un symptôme. Il y a quelques années, une de mes amies, qui est documentaliste dans un lycée professionnel de province, un lycée professionnel qui produit d'excellentes choses parce qu'il est dans le Val-de-Loire et ils font du vin. Une de mes amies qui aime beaucoup la science-fiction, même si les lectrices sont minoritaires, il y en a, introduit dans la bibliothèque de son établissement, sans la moindre difficulté, un choix de très bons ouvrages de science-fiction. Et elle constate qu'ils sont très peu demandés par les élèves. Alors elle finit par s'en inquiéter et elle interroge un certain nombre d'élèves. Et un jour, elle reçoit cette réponse terrifiante. Madame, la science-fiction, c'est une littérature de vieux. Et je dois dire que je commençais déjà, ça devait être au début des années 2000, mais à percevoir quelque chose et à m'en inquiéter. Et ce qui est clair, en tout cas, et ce que reflète bien cette réflexion de cet élève, c'est que le renouvellement qui se produisait régulièrement, le renouvellement des générations de lecteurs, a cessé de se reproduire, au moins de façon massive, depuis le milieu, enfin on peut pas dire exactement quand, des années 1990. Si bien qu'on est en face d'une population de lecteurs qui vieillit, qui se raréfie, il y a des gens qui abandonnent la science-fiction, et ça n'est plus massivement remplacé par la base comme ça a été dans les années 1950, 60, enfin surtout 70 et 80. On peut vraiment, ce jeune lectorat, ou bien il a cessé de lire, ou bien il s'est reporté assez massivement sur la fantaisie post-tolkienienne, et puis beaucoup plus récemment sur les histoires de vampires et de zombies, etc. Il s'est probablement aussi reporté sur tout ce qui est vidéo, sur les jeux vidéo, enfin et tout le reste. En tout cas, sauf pour une minorité agissante, importante et supérieurement intelligente qui continue à se mettre à la science-fiction, il y a manifestement eu un déclin, un abandon. Et ce déclin, on l'observe partout dans le monde industrialisé, également aux États-Unis. Et si, pour ceux d'entre vous qui la connaissent, probablement peu nombreux, il y a une revue professionnelle qui s'appelle Locus. Dans cette revue professionnelle se trouvent listés, dénombrés, critiqués, tout ce qui paraît dans la littérature dite de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, terreur, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Jusque dans les années 90, l'essentiel des recensions concernait des œuvres de science-fiction. Et ça décru. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une rubrique qui est très intéressante parce qu'on veut presque fonder une statistique dessus, qui est ouvrage notable. Hein, ce que chaque mois, il cite une vingtaine, entre une quinzaine et une vingtaine d'ouvrages notables. Je dirais qu'en 1990, sur les 20 ouvrages, il y en avait 18 qui étaient de science-fiction, puis il y en avait un ou deux qui relevaient d'autres domaines. Aujourd'hui, quand il y a un ouvrage de science-fiction, c'est le maximum. Donc ça, pour le sociologue amateur que je demeure, c'est une indication qui est pas une valeur statistique fantastique, mais sous la longue période, c'est avec ce genre de choses qu'on se fait une opinion, une vraie opinion, une opinion informée. Alors qu'est-ce qui s'est passé du milieu des années 1990 à aujourd'hui qui explique ce déclin universel, enfin peut-être un peu moins accusé, encore sait-on, en Grande-Bretagne, mais en tout cas parfaitement net en France, et aux États-Unis et ailleurs. Bon. Alors, d'abord, il y a très longtemps, j'ai développé l'idée que le public de la science-fiction et le groupe qui produisait, qui consommait de la science-fiction, était quand même assez particulier. On en connaît un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il est très majoritairement masculin. Et en 50 ans, ça a très peu changé. Tous les indicateurs qu'on a vont dans le même sens. D'ailleurs, ici même, quant à la fréquentation, j'interrogeais Marie Masson, qui me disait qu'en gros, c'était 60-40, c'est-à-dire 60 masculins et 40 féminins. Bon, c'est pas... Bon, on va pas en tirer des... Bon, c'est tous les indicateurs vont dans le même sens. Il y a 20% de lectrices et 80% de lecteurs dans le même sens. Je parle de livres, de science-fiction. Bon. Alors, ce public masculin, essentiellement, mais pas exclusivement masculin, c'est aussi un public qui a une formation technique et scientifique. Ça va du très haut niveau, les docteurs, enfin les professeurs d'université, jusqu'à la petite informatique, etc. Et jusqu'au milieu des années 90, ce groupe social a pu espérer, et a d'ailleurs vérifié cette espérance, une ascension sociale considérable qui était liée à sa formation technique et scientifique. À partir, en gros, en très gros, des années 90, cet espoir d'ascension sociale fondé sur cette formation s'est étiolé. Il a même fini par disparaître pour une raison très simple. Ça s'appelle la mondialisation, c'est-à-dire que ces techniciens, ces ingénieurs, c'est moins vrai pour les professeurs d'université, se sont trouvés en concurrence directe avec des ingénieurs, des techniciens, etc., de compétences équivalentes, indiens ou chinois, principalement chinois. Depuis quand est-ce qu'on fabrique des écrans plats en France? Bon. Si bien que ce groupe social, sans en avoir nécessairement une conscience très aiguë, très précise, a vu son avenir se boucher. Et voyant son avenir se boucher, il a cessé de s'intéresser à l'avenir. Et cessant de s'intéresser à l'avenir, il a cessé de lire de la science-fiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé d'autres modes de satisfaction, le cinéma de science-fiction, qui est très important, les jeux vidéo, etc. Mais en tout cas, en ce qui concerne la littérature de science-fiction, il s'en est détourné. Alors, comme toute explication globale, cette explication n'est pas forcément fausse. Je crois qu'elle est à fond de vérité, mais enfin, elle est très insuffisante. Mais elle est là. Hein. Alors j'attends avec calme, patience et flegme les 25 prochaines années où quand la mondialisation sera achevée, que le prix d'un ingénieur chinois aura rejoint le prix d'un ingénieur européen, nous repartirons pour une nouvelle époque glorieuse de la science-fiction.
Une dernière question, peut-être avant de passer la parole à la salle. Il est clair, je pense, que tu as des idées très claires, justement, sur énormément de sujets. Tu es une puissance créatrice hors du commun, y compris sur des concepts théoriques parfois très originaux. L'Université de Nice a organisé il y a 2 ou 3 ans des journées d'études sur le concept de subjectivité collective que tu avais développé. Tu maîtrises évidemment toutes les formes d'écriture, y compris celle de l'essai, c'est plus à démontrer. Tu as pastiché assez volontiers quelques reprises le style académique, c'est quelque chose que tu sais relativement bien faire aussi. Et pourtant, on n'a pas encore de véritable essai positif de la part de Jacques. Là, on a quelques essais qui sont plutôt des pamphlets ou des critiques. Est-ce qu'on doit attendre dans un futur proche ce que je crois, le grand œuvre de Gérard Klein, ou sinon qu'est-ce qui t'a empêché de franchir ce pas?
J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Il y a une première chose, c'est que probablement à cause de l'organisation de mon encéphale, peut-être aussi à cause, jusqu'à une période encore aujourd'hui, mais enfin, une grande partie de ma vie, de la multiplicité de mes activités, je suis plus à l'aise dans des textes courts que dans des textes longs. Moi, je pense que j'ai écrit dans ma vie 2-3 bonnes nouvelles. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir écrit 2-3 bons romans. Enfin, bon, j'ai écrit un roman potable qui est Seigneur de la guerre, puis un qui est pas inintéressant, qui est le sceptre du hasard, mais enfin, je suis pas un grand romancier. Par contre, j'ai la faiblesse de croire que j'ai écrit quelques bonnes nouvelles. Enfin, je suis plus à l'aise dans le texte court, et la respiration des articles et des préfaces, qui sont en fait des articles, c'est généralement tout sauf des préfaces, que j'ai donné à des livres du livre de poche, et à des titres du livre de poche et ailleurs, ça correspond bien à mon mode de fonctionnement. Alors, je crois que si on considère tout ça, il doit s'en dégager, je ne dirais pas une pensée globale, mais enfin, bon, quelque chose qui ressemblerait à l'essai que tu sembles attendre, mais dont je ne vois pas très bien sur quoi il porterait. Alors, il y a quand même un livre qui sera d'ailleurs composé de chapitres, donc en quelque sorte de fragments, que je n'ai jamais écrit, enfin, mais qui est, parce que je n'ai jamais trouvé le temps non plus, et qui est rentré en quelque sorte, peut-être que entre ma 100e et ma 150e année, je trouverai le moyen, le temps de l'écrire, qui serait consacré principalement à une défense et illustration de la prospective en passant par la science-fiction. Parce que ce que je crois profondément, c'est que dans la société où nous sommes, on ne peut pas vivre sans avoir une perspective du temps long, et pas du temps long passé, c'est également nécessaire, mais du temps long à venir. La préoccupation écologique en étant un aspect, mais pas le seul. Il y a aussi des dimensions économiques qui sont liées à la concentration du capital, les problèmes du pouvoir qui va avec, etc. Donc, j'aimerais bien écrire quelque chose, un livre, insistant sur la nécessité de penser le temps long, enfin les 20, 30, 50 années à venir, sur un certain nombre de sujets, mais surtout de façon globale, de se soucier du temps long et montrant que la science-fiction est un instrument de cette pédagogie de l'avenir. La science-fiction ne va pas vous dévoiler l'avenir. Les écrivains de science-fiction ne sont pas des prophètes et encore moins des prévisionnistes. Et les prévisionnistes n'ont finalement pas grand-chose à dire. Enfin, ils ont des choses importantes à dire, mais enfin, ils n'ont pas... Bon. Mais la science-fiction, de même qu'elle peut attirer l'attention, créer une vocation scientifique, elle ne va rien dire de très important sur la science, mais elle peut amener un intérêt pour la chose scientifique. Bon, si la science-fiction peut également amener à un intérêt pour l'avenir et pour tout ce qui peut s'y dérouler, même si il n'est pas nécessairement facile. Mais la seule chose, en l'absence provisoire de machines à revenir dans le temps, dont nous sommes absolument certains, c'est qu'il vaut mieux explorer l'avenir parce qu'on y va.
Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un micro? Parfait, merci.
Oui, bonjour. Alors, j'aurais une question relativement simple à vous poser. Pensez-vous que la SF moderne, enfin j'entends contemporaine de ces 20 dernières années, est plutôt une machine à créer des histoires ou au contraire peut se voir comme un véritable objet littéraire?
Qu'est-ce que c'est qu'un objet littéraire?
J'entends plutôt, grossièrement, des œuvres classiques.
Oui, la réponse est oui et la réponse est non. Non, mais pour moi, la très bonne science-fiction a évidemment des qualités littéraires. Alors, par qualité littéraire, je dirais une facilité à convaincre par l'expression. Donc ça, c'est quelqu'un qui écrit comme un cochon ou de façon incompréhensible, il ne va pas transmettre grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse le plus souvent dans la très bonne science-fiction, c'est justement ce dont je parlais, c'est-à-dire c'est une réflexion sur la pluralité des avenirs. Et chaque fois, en règle générale, contrairement à la prospective, on n'aborde qu'un, mais c'est une réflexion sur un avenir possible, que ce soit pour essayer de trouver le meilleur cheminement, le pire n'est jamais sûr, ou bien que ce soit, comme l'a fait très souvent mon ami John Brunner, pour essayer de prévenir un avenir catastrophique ou épouvantable. Je crois que la littérature de science-fiction continue à ce travail. Seulement, il y a de moins en moins de gens qui le font. Comme il y a moins de lecteurs, la situation économique est un peu difficile. Et puis, pour l'éditeur français que je suis, il y a deux problèmes. Le premier, c'est, j'ai quand même publié à 70% probablement, à peu près, peut-être un peu plus même, des traductions. Or, mes collègues comme moi, nous ne parvenons plus à financer les traductions. Il y a 10 ans, ça posait pas de problème, mais aujourd'hui, ça pose un problème aigu. Les traductions de bonne qualité, c'est cher. S'il n'y a pas assez de lecteurs, on peut pas. Alors, je citerai un exemple. J'ai sous le coude un très bon roman de Kim Stanley Robinson, 2312, qui décrit un état du système solaire qui est largement peuplé, enfin colonisé par des humains, en 2312, donc dans 300 ans. Seulement, c'est un assez gros livre et ça passe pas. Et là, et du côté des auteurs français, bien que je les sollicite régulièrement avec toute la discrétion nécessaire, je ne les vois pas tellement me proposer des manuscrits qui s'aventureraient dans cette direction. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, mais voilà à peu près où nous en sommes. Je crois que...
Bonjour, Monsieur Crin. Ma question était en relation avec 2312, justement, une relation commune, Joseph Alterac, pour ne pas le nommer, m'avait dit il y a quelques mois qu'il y avait des problèmes avec ce roman, et également, enfin, pour moi et sûrement beaucoup de lecteurs, une autre très mauvaise nouvelle, c'est que la série des Princes Marchands de Strauss s'arrêterait tout du moins chez Robert Laffont. Est-ce vrai et que deviendraient les tomes 5 et 6 pour les amateurs? Et en gros, votre pouvoir décisionnaire auprès de Robert Laffont a-t-il beaucoup évolué en relation avec la relative mévente de la science-fiction actuelle?
Non, mais on ne peut pas dire que mon pouvoir décisionnaire a évolué. Il est toujours très grand. Mais, si vous voulez, la réalité, c'est quelque chose qui existe. Si vous sautez de votre chaise sans parachute, c'est probablement pas très grave. Si en revanche vous sautez de 3000 mètres de haut sans parachute, il risque de vous arriver des bricoles à l'arrivée. Enfin, c'est le, C'est le dernier centimètre qui promet d'être pénible. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir décisionnaire. Ça a à voir avec l'altitude. Alors, sur les deux cas, je vais tâcher de vous répondre. Bon, en ce qui concerne Charles Strauss, j'étais très content de publier Le Bureau des atrocités. Et à peu près en même temps, nous avons acheté le premier volume de la série des Princes marchands, qui m'intéressait beaucoup en tant qu'économiste, parce qu'il promettait, d'ailleurs été mis en exergue par Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, de confronter, ce qui correspond à tout à fait à un aspect de mon activité d'économiste, trois niveaux de développement économique différents. Un niveau en gros médiéval, un niveau en gros victorien, enfin celui du 19e siècle français et anglais, et un niveau moderne. Bon, et ça, cette confrontation est très importante, parce que comme l'a fait remarquer Krugman, c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans le monde réel. J'ai indirectement travaillé sur le développement de l'Afrique, j'ai enseigné d'ailleurs sur ce sujet à l'IEDES, l'Institut pour le développement économique et social. Donc ça m'intéressait beaucoup. Alors, Strauss et son agent nous promettaient trois volumes. J'aurais craché. Bon, on est à six. Alors ça passe plus. Déjà, il y a une espèce de... Je dirais pas de mensonge, mais enfin, il y a quand même une espèce de tromperie. Bon, on a publié les trois. J'ai réussi à obtenir qu'on publie les quatrièmes. Pour le reste, tout est suspendu. Je ne peux pas dire qu'on les publiera jamais. Je n'en sais rien. Mais enfin, dans l'état actuel des choses, l'équation économique fait que ça passe pas, quoi. C'est sauter de 3000 mètres sans parachute, hein. Je suis économiste et, même en faisant un calcul, je connais beaucoup mieux que la plupart des éditeurs, le résultat des courses. Alors vous parliez d'un autre livre qui était le 2312. Bon, c'est exactement la même chose. Appelons les choses par leur nom. Logiquement, c'est son éditeur habituel, les Presses de la Cité ou Fleuve Noir, enfin c'est la même chose, qui aurait dû le publier. Bon, vu les résultats catastrophiques des précédents Crimson et Robinson, ils ont décliné, et l'agent qui connaît mon intérêt pour Crimson et Robinson, qu'en plus j'ai rencontré personnellement, je trouve très sympathique, bah évidemment, vous voyez le 2312. Elle dit, on fait le calcul, bah, c'est toujours sauter de 3000 mètres de haut sans parachute. Il faut quand même bien voir que éditer un livre, surtout s'il y a une traduction, c'est un investissement, je dirais, de 30 000 à 40 000 euros. Si vous êtes certain d'en récolter 10 000 à l'arrivée, bah, vous vous posez la question suivante. Je le fais et je licencie deux personnes. Bon. Ça n'a rien à voir avec mon pouvoir de décision auprès des éditions Lafon. Ça a à voir directement avec la loi de l'apesanteur.
Une toute dernière question. Les applaudissements de notre salle nous disent qu'il est presque l'heure d'arrêter. Au fond, là-bas.
Alors, tout d'abord, bonjour. La question que je voulais vous poser, c'est il y a énormément de films de science-fiction qui sortent ou qui vont sortir. Est-ce que vous avez espoir que ça redonne l'intérêt dans la littérature de science-fiction au jeune public ?
L'espoir fait vivre, mais non, je ne le crois pas. Je pense au contraire qu'il y a eu en quelque sorte une dérivation, une absorption. Et on peut le dater de façon assez précise d'une partie du public de la science-fiction par l'image et tout spécifialement par le cinéma. Je dirais qu'on peut le dater de façon assez précise parce qu'en 1977 sort le premier volet de La Guerre des Étoiles. J'ai assisté à une projection privée juste avant que ça sorte en France, avec un certain nombre d'amis, il y avait Guémard, il y avait André Rueland, et je ne sais pas qui d'autre. Alors, eux, ils sont sortis absolument enchantés. Moi, je suis sorti de là pleurant toutes les larmes de mon corps et disant, bon, c'est fini, c'est la catastrophe. Parce que c'était le basculement vers quelque chose qui n'est en rien de la science-fiction. C'est de la fantaisie et pas forcément de la meilleure, avec les oripeaux de la science-fiction, avec des costumes de science-fiction. La multiplication, parce qu'il faut les regarder un par un, ces films de science-fiction. Il y en a qui sont tout à fait remarquables. Bon, il y en a d'autres qui sont simplement de la castagne ou des westerns ou des thrillers avec les oripeaux de la science-fiction. Donc je ne crois pas que ça soit ça qui ramène un public à la littérature, la science-fiction ou ce qu'il y a autour, enfin du texte, la bande dessinée, etc. Franchement, je ne le crois pas. Enfin, l'avenir n'est jamais sûr.
Je crois que nous allons devoir nous arrêter là. Merci à Gérard pour la sincérité de tes réponses. Merci. Merci à tous d'être venus. J'espère que ces trop courts moments d'entretien auront répondu à quelques-unes de vos questions sur la science-fiction. Et j'imagine que Gérard ne sera pas opposé à répondre quelques questions si vous l'offrez au verre au bar. Merci à tous et bonne fin de festival.